Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Ganzoine.
Bonjour Valérie.
Nous sommes le 29 décembre et je vous propose de réentendre Sophie Cluzel, la ministre en charge des personnes en situation de handicap, et puis Christophe Beaugrand qui était venu parler de son livre qui a cartonné, Fils à papa. On réécoute la ministre qu'on avait interrogée sur
la télévision et
le handicap, la place du handicap à la télévision. Ça peut arriver à tout le monde, des accidents de la route, des maladies,
son travail, hein.
Ouais, des AVC, maladies, des AVC, enfin toute une série de choses. Et effectivement, le handicap est tout de même assez peu...
Il fait partie de notre vie.
Oui, mais il est très peu présent.
C'est 12 millions de personnes en situation de handicap. 80% sont invisibles, c'est vrai. Mais c'est aussi 8 millions d'aidants, donc ils touchent énormément de personnes autour de nous. On est tous concernés quand on regarde autour de nous.
Mais la question, c'est est-ce qu'on en fait assez?
Est-ce qu'on en fait assez?
Les secrétariats d'État aux personnes handicapées se sont succédés.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est la première fois que ce gouvernement le rattache au prime du Premier ministre la donne.
C'est ce que je vous dis, mais depuis des années, ça a été une espèce, pardon de le dire, c'est comme ça que je l'ai ressenti, parce que j'ai reçu à peu près tous les secrétaires d'État depuis une vingtaine d'années. C'est une espèce de sous-secrétaire. Ça a été longtemps vu
d'abord très santé, puisque ça a toujours été rattaché à la santé. Le fait que ça soit rattaché auprès du Premier ministre, on a eu 5 comités interministériels du handicap. C'est-à-dire que l'école, c'est vraiment la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant près de 5 ans maintenant, puisque je suis depuis le début au gouvernement. Et changer la donne, c'est ouvrir les droits, c'est ouvrir l'école, c'est ouvrir les entreprises, c'est faire prendre conscience au grand public. Et permettez-moi de rappeler qu'on a une campagne nationale en ce moment de sensibilisation sur tous les écrans, sur tous les affiches au cinéma bientôt pour justement voir la personne avant le handicap.
Mais donc vous y croyez à ces campagnes? Vous pensez que...
Ah, écoutez, ça fait 15 ans qu'on n'en avait pas fait. On était pointé du doigt par l'ONU, etc. C'était une très forte demande des associations. Elle a été bâtie justement avec eux pour parler justement du fait que avant tout, c'est une personne, avant de voir le handicap et de s'arrêter. Et que ces personnes, elles sont au milieu de nous, que ça peut être mon collègue de travail qui a un handicap invisible, un trouble psychique, mental. Eh bien, faire attention à l'autre, ouvrir ses portes, aller voir son voisin, aller inviter son camarade d'école qui est en situation de handicap, c'est permettre aux personnes, aux familles, de se sentir vraiment dans cette cohésion sociale, dans cette communauté de vie.
Et pour ceux qui ont un handicap invisible, c'est parfois compliqué aussi à le dire, ils le cachent aussi souvent.
Alors ça, vous avez entièrement raison, et moi je fais appel justement, dites que vous êtes en situation de handicap, dites-nous quels sont vos besoins pour qu'on vous mette en situation optimale. C'est encore en effet un peu tabou, surtout sur les handicaps invisibles, les troubles de fonction cognitive, le handicap psychique, avec la santé mentale qui fait peur encore. Donc il faut pouvoir en parler. C'est pas le handicap dont on a besoin de savoir. Oui. C'est quelle est la répercussion du handicap sur ma performance au travail, sur mon envie de logement, etc. C'est ça qui est compliqué à expliquer.
Alors, pourtant, je me souviens avoir reçu aussi Jean-François Amadieu, que vous devez connaître, qui est sociologue, spécialiste des discriminations. On parle souvent des discriminations ethniques, sauf qu'on parle assez peu du handicap, et c'est la première cause de refus d'emploi. Il avait fait ce testing avec des différents CV, où la seule chose qui différenciait, c'était un léger handicap. Quelqu'un, je me souviens, qui avait un problème de mobilité du coude, et ben c'était les CV les plus rejetés. Le handicapé le plus discriminé à l'emploi.
Bien sûr, le défenseur des droits a fait son rapport chaque année, on en est tout à fait conscient, c'est pour ça qu'on va en faire une force. C'est pour ça qu'on veut libérer la parole, c'est pour ça qu'on a fait la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la 25e semaine, et c'est pour ça qu'on a créé aussi le DUODÉ, parce que je pense qu'il faut libérer la parole, expliquer, faire de la pédagogie, et montrer que quand on met des adaptations qui sont pas compliquées, on a une représentation encore très très biaisée. Pour la majorité des Français, le handicap, c'est fauteuil roulant et canne blanche.
Absolument.
Et donc tous ces handicaps invisibles sont encore très mal connus.
À la télévision, on l'évoquait, vous le disiez vous-même, 0,6% de handicapés présents à la télévision. Ça rejoint ce que dit Jean-François Amadieu sur la discrimination.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut...
Moi, je les ai challengés. L'ensemble des médias ont signé une charte pour améliorer la représentation. Je leur ai dit qu'on fait le guide des experts en situation de handicap, qui sera bientôt prêt. Et là aussi, ça va vraiment donner des ressources et des compétences en situation de handicap. Et puis, il faut le dire haut et fort, quand il y a des fictions, de plus en plus de fictions, introduisent, je dirais, des personnes ou des personnages, des acteurs en situation de handicap, à chaque fois, sur ces sujets-là, ça fonctionne, ça fait de l'audience. Donc je dis, puis on a aussi les Jeux paralympiques. les Jeux paralympiques, plus de 120 heures de diffusion de France Télévisions.
Voilà.
Et bien, voilà, exactement, avec une très très belle audience. On va avoir les Jeux de Paris 2024. Donc, on a vraiment des atouts dans notre pays pour améliorer la représentation des personnes handicapées.
Alors, c'est vrai que pour faire un point, Valérie, à la télévision, on voit rarement des handicapés sur ce qu'on appelle les émissions de flux ou les émissions qui font beaucoup d'audience. On les voit dans des documentaires, on les voit de temps en temps en reportage, mais on les voit rarement dans ce qu'on appelle les domaines comme les jeux, les fictions, même la télé-réalité. Il n'y a pas d'handicapés dans la télé-réalité. Et ni l'information, on n'a pas des gens qui font ce qu'on appelle les stand-up, des journalistes en situation, on n'a pas d'animateurs en fauteuil roulant sur les émissions de l'info, mais je vais vous faire un petit point. Mais ça avance un petit peu. Il faut savoir que Jean-Luc Reichmann et Nagui sont ceux qui donnent le plus de place à des candidats handicapés. On peut parler de Paul, évidemment, des 12 coups de midi. Il y a Dominique Bréhat qui a fait « Tout le monde veut prendre sa place ». Il y a Aymeric Jéhu qui était non-voyant, qui a fait « N'oubliez pas les paroles » comme Bruno Estève. Le premier handicapé qu'on a vu à la télévision française, c'était en 68 dans les chiffres et les lettres. Il s'appelait j'avais noté son nom, mais je vais le retrouver. Michel Jouot, il était candidat aux chiffres et aux lettres, et il avait une mémoire, ça avait marqué les gens, parce qu'il fallait qu'il retienne toutes les lettres et tous les chiffres, et il faisait les calculs mentaux, et puis également les lettres. Il faut savoir également que derrière, il y a des déçus, par exemple, Dominique Bréhat a connu du succès parce qu'il avait cet handicap, et qu'il avait gagné plus de 160 000 euros. Il s'est fait engager par Radio France Amiens pour faire un billet quotidien. Ouais, ça a duré 15 jours, hein. Après, ils l'ont mis de côté. Et puis, il a expliqué que ses démarches n'aboutissaient plus, qu'il regrettait cette expérience. Je suis marqué, on m'appelle l'aveugle de France 2. Même la production de Tout le monde veut prendre sa place m'avait promis de m'aider. Concrètement, je n'ai pas été aidé. Je n'ai servi qu'à valoriser l'émission de Nagui. Il disait ça dans un article de Télé Loisirs de 2011. Ouais. Et puis, rapidement, dans Danse avec les stars, on a eu également Sophie Vouzelot, voilà, qui était malentendante depuis sa naissance. Et puis il y a Grégory Cuilleron également de Top Chef. Et puis il y a également, je vous ai sorti ça, Michel qui avait 57 ans, qui a remporté 24 650 euros au jeu Harry. Et elle était venue parce qu'elle n'arrivait pas à s'acheter un fauteuil roulant pour son enfant. Et la seule solution qu'elle avait trouvée, c'était de faire un jeu. Mais c'est vrai que globalement, les studios ne sont pas forcément aménagés aussi pour mettre un fauteuil roulant ou pour accueillir des handicapés. Question pour un champion, aucun handicapé, parce que le buzzer est trop haut, et c'est très compliqué.
C'est vraiment pas compliqué, mais vous avez oublié aussi Cyril Hanouna, avec ses chroniqueurs
exactement,
en situation de handicap.
Oui, c'est le premier vraiment à avoir mis tous les vendredis.
Ouais, et puis qui nous a accueillis pour le duo D, avec mon duo également.
Oui, il fait des choses formidables, Cyril
Hanouna, sur le handicap. Très engagé sur le handicap, et puis surtout qui donne la parole aux personnes, et qui deviennent des chroniqueurs.
Des chroniqueurs, c'est les vendredis.
Je vois nos auditeurs qui réagissent sur le site Facebook, qui sont abandonnés quand même, qui ont une sorte de dépit, en disant les gens qui vont à la soupe populaire, qui sont au Resto du Cœur, sont en majorité, enfin pas en majorité, mais il y a une augmentation de cette catégorie là et qui disent on nous oublie. Comment vous expliquez ce sentiment d'abandon des personnes en situation de handicap?
Je pense que il faut peut-être quand même rappeler au niveau du pouvoir d'achat ce qu'on a fait, parce qu'on a augmenté l'allocation adulte handicapé de 100 euros, c'est-à-dire qu'elle est passée de 800 à 900 euros. C'est comme un investissement de la nation juste sur le quinquennat de plus de 2 milliards pour 1 million d'autres personnes. Et à côté de ça, on a aussi la prestation de compensation du handicap. Après, ce que demandent les personnes, c'est justement celles qui veulent pouvoir travailler, c'est qu'elles puissent vivre de leur travail. Ouais. Et là, on a encore un pas à franchir, c'est indéniable, puisqu'on n'est qu'à 3,8% d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, alors que le quota, puisque c'est un quota, est à 6% depuis 30 ans. Donc on voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire pour bien vivre de son travail. Et c'est ce que les personnes...
Beaucoup dénoncent aussi l'administration. L'administration est la première discrimination nationale, nous dit Stéphane. Vous avez des MDPH,
maisons départementales
pour bien locales, mais pourquoi un an pour une PCH, je ne sais pas, équipement, à cause de la lenteur des procédures?
Alors peut-être dire aussi que on est le premier gouvernement, et ça c'était mon combat quand je suis arrivée, de donner les droits à vie. Quand vous avez un handicap avéré, vous n'êtes plus obligé d'aller chez le toubib pour s'en tamponner, pour dire que vous êtes toujours aveugle, que vous êtes toujours trisomique, que vous êtes toujours autiste, que vous êtes toujours doublement amputé, c'est fini ça. Donc ça, il faut peut-être le redire aussi. Et ce sont les départements qui sont en charge d'octroyer ces droits à vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi ? Parce que je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient, et je veux que tout le monde ait le même accès aux droits. Eh bien, j'ai fait un baromètre pour que chacun puisse aller voir dans son département où on en est sur l'octroi des droits à vie, sur les délais, etc. Et il faut challenger ces départements de pouvoir améliorer ces délais. Je ne les ai pas laissés tout seuls. J'ai aussi rajouté de l'argent pour les accompagner sur leur système informatique. Mais là, il en va vraiment, en effet, d'arrêter de harceler les personnes handicapées pour qu'elles reprouvent à chaque fois leur handicap. Dites-le nous une fois. C'est dans tous les domaines. C'est ce que j'essaye vraiment de faire. D'abord parce que pour le connaître bien et le vivre,
c'est
insupportable de devoir refaire son dossier tous les 3 ans. Ça, c'est fini pour les handicaps avérés qui ont un impact important. Il faut vraiment que ça se mette en place partout.
Voilà, c'était Sophie Cluzel donc, qui était avec nous. Maintenant, je vous propose de réécouter Christophe Beaugrand, Fils à papa, un livre dans lequel il raconte la GPA par laquelle ils ont réussi à avoir un petit garçon avec son mari. Et donc, c'est un livre qui a plutôt très bien marché. Donc, je vous propose de réécouter Christophe Beaugrand. L'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir pères. Et c'est un livre très personnel. Ouais. La première partie est une sorte de biographie, d'autobiographie, puisque vous racontez comment petit, vous vouliez déjà avoir des enfants.
Oui, je raconte comment j'ai découvert mon homosexualité, comment ça a été difficile de l'assumer par rapport à ma famille.
Des parents formidables.
Avec des parents extraordinaires, mais j'avais peur de déplaire. En fait, je pense que c'est ça, on a peur de déranger quand on se rend compte qu'on est différent de la norme et qu'on va bouleverser un peu la famille. Moi, j'ai 44 ans, je l'ai découvert dans les années 80, on en parlait beaucoup moins, voilà. Donc du coup je me sentais je me disais que ça allait être une catastrophe dans la famille, et j'ai une maman et un papa qui ont été absolument extraordinaires, mais c'est vrai que je me rappelle très jeune, à la maison les valeurs familiales c'était hyper important, et je me projetais dans l'idée de devenir papa et de fonder une famille.
Mais vous disiez que ce serait pas possible compte tenu du fait que les filles ne vous intéressaient pas.
Je me heurtais à cette réalité qui fait que a priori il faut un homme et une femme, et que là ça ne fonctionnait pas dans le couple dans lequel je pouvais me projeter.
Oui, vous... vous dites à un moment, c'est assez drôle d'ailleurs, qu'il y avait quand même des posters de Mylène Farmer dans votre chambre.
Il y avait des indices pour ma mère.
Il y avait quand même quelques indices.
J'étais fan de Madonna.
Voilà, c'est elle qui vient vous voir et qui...
hétéros qui aiment Mylène Farmer, mais enfin...
Elle a un bon fan club.
Non, mais c'est vrai que ma maman est venue me voir, est venue me parler, et en fait j'ai appris après qu'elle était allée voir... Il y avait des indices, effectivement, elle s'était rendue compte de quelque chose, elle est allée voir une psy... pour savoir non pas comment me changer, mais comment me parler pour ne pas me braquer, trouver les bons mots. Et ça, c'est une preuve d'amour incroyable. Et je pense que quand on est un parent, il y a des parents sûrement qui nous écoutent. Je pense que la préoccupation numéro un qu'on doit avoir, c'est de faire en sorte que son enfant soit épanoui. Moi, depuis que je suis papa, c'est vraiment ma préoccupation numéro un.
C'est une réalisation. Enfin, vous êtes réalisé d'une certaine manière différemment. Est-ce que les choses ont changé quand même ?
Oui, beaucoup, heureusement. Je le disais, j'ai 44 ans. Ouais. Moi, j'ai eu mon enfance et mon adolescence à la fin des années 80, et c'est vrai que depuis les choses ont beaucoup évolué, on en parle davantage, il y a plus de visibilité, les droits des homosexuels ont beaucoup évolué aussi, il y a la possibilité de se marier maintenant, d'adopter des enfants, on a une vision des choses, on est beaucoup plus intégré dans la société aujourd'hui, on est moins mis de côté, entre guillemets, sauf par une frange de la société qui ne veut vraiment pas, mais...
D'où la nécessité d'avoir des gens comme vous qui prennent la parole et qui revendiquent à la fois l'homosexualité, à la fois cette GPA que vous avez fait.
Alors je vous reprendrai simplement sur le terme revendiquer, c'est pas vraiment ça, je donne de la visibilité. Après moi je revendique rien.
Mais vous êtes militant. Alors je sais que ça peut être...
Le perçois pas comme ça, mais je comprends.
Mais sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire que...
Prendre la parole, c'est quelque part un acte politique, dans le sens où je m'intéresse à la vie de la cité et au vivre ensemble. Mais après, j'ai pas d'engagement politique, je ne revendique rien spécifiquement, j'explique mon parcours, et je donne une image de ce qui peut exister. Je dis pas que toutes les gestations pour autrui, ça se passe toujours comme ça, j'en parle d'ailleurs dans le livre, qu'il y a des choses pas clean qui existent.
Qui sont pas bien.
Exactement, et ça je le dénonce, et je suis le premier à le dénoncer, mais je trouve qu'il est important aussi de raconter comment les choses peuvent bien se passer avec un encadrement juridique, psychologique, humain et une véritable histoire d'affection et d'amour qui s'est créée avec Whitney qui a porté notre petit garçon.
Est-ce qu'il n'y a pas une injustice parce qu'il faut quand même beaucoup d'argent, ça coûte très cher d'aller aux États-Unis et autres. Ça veut dire qu'un couple qui est très amoureux mais qui n'a pas les revenus ne peut pas avoir d'enfant avec une GPA de nos jours.
Alors aujourd'hui, oui, effectivement, on peut pas dire le contraire. Il y a, je suis totalement conscient d'être quelqu'un de privilégié. Après,
c'est entre 100 000 euros.
C'est 150 000 euros.
Entre 100 et 150 000 euros, nous ça a coûté à peu près 130 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de couples aujourd'hui qui n'ont pas forcément des moyens gigantesques, mais qui font des prêts familiaux, qui vendent leur appartement quand ils sont propriétaires et qui redeviennent locataires. J'ai des amis qui ont fait ça pour pouvoir mener à bien ce projet. Et c'est pas des gens qui roulaient sur l'or. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont par définition exclus de cette possibilité d'avoir un enfant, c'est vrai. Mmh. Et hétéro comme homo d'ailleurs, parce que je précise dans le livre que plus de 60% des GPA qui sont réalisés en France aujourd'hui, on en parle beaucoup pour les couples homosexuels, la Manif pour tous focalise un peu là-dessus notamment, mais il faut savoir qu'une majorité sont des couples hétérosexuels dont effectivement les femmes sont stériles.
Ouais. Vous racontez, c'est très touchant, hein, la manière dont vous, et à la fois drôle, la manière dont vous racontez la sélection, parce que c'est, on peut parler de, ou le choix qui a été fait pour trouver à la fois la donneuse d'ovules et la mère porteuse.
Ça, c'est vrai qu'il faut préciser qu'il y a deux femmes qui rentrent absolument dans ce processus. Ce n'est pas la mère porteuse qui donne son patrimoine génétique. Absolument. Il y a une donneuse d'ovocytes et ensuite une mère porteuse qui va porter l'embryon qui a été créé en fécondation in vitro. Et ça, c'est très important. Ils ont plus de 30 ans de recul aux États-Unis sur la gestation pour autrui. Et pour enlever l'attachement que la femme qui porte le bébé peut avoir, il n'y a aucun lien génétique avec ce bébé. Donc voilà, c'est important. Mais effectivement, c'est des rencontres en fait. Ça ressemble un peu, je le décris dans le livre, comme un site de rencontre en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant de comprendre et de savoir, c'est que ce n'est pas nous qui choisissons en sélectionnant une photo ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un choix commun. Il y a une base de données de parents d'intention, c'est comme ça qu'on nous appelle, et ce sont ces femmes-là qui également nous contactent et nous choisissent.
Elle lui dit j'aime bien votre histoire, les garçons, ça me plaît bien, et elle dit ok, je suis d'accord.
Elle a parlé, Whitney qui a porté notre petit garçon, a parlé avec 4 couples au total, et on a eu un feeling, nous on a discuté avec 5 femmes, et c'est vraiment l'idée d'une rencontre. Alors c'est une rencontre par Skype, parce qu'on est à plusieurs milliers de kilomètres, donc évidemment on n'a pas pu se rencontrer physiquement, c'est arrivé plus tard, mais c'est vraiment l'idée d'un feeling réciproque. Et c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. On ne choisit pas entre guillemets une femme en lui contraignant. C'est pas comme ça que ça se passe du tout en fait.
Mais la question est pourquoi elles le font. Et c'est surtout la crainte de ceux qui sont opposés à la GPA, c'est la marchandisation du corps. C'est vrai que quand vous le racontez, c'est un peu un conte de fées. Elle fait ça par altruisme, elle est jeune, etc. Maintenant, on peut pas nier le fait qu'il y a un intéressement financier. Alors, il faut bien préciser que sur les 130 000 euros, ça ne va pas à la mère porteuse, ni au don de ovocytes. Il y a énormément de frais de gestion d'avocats.
Les trois quarts. Je vais vous expliquer en fait concrètement les choses. C'est-à-dire que ces femmes, que ce soit les donneuses d'ovocytes ou les mères porteuses, sont choisies par les agences. Il y a des agences qui ont pignon sur rue et qui mettent en relation les parents d'intention.
Je peux faire juste une parenthèse. Allez-y, une sorte de mythique des ovocytes, vous dites. Et il y a l'embarras du choix. Tout type de physique, de style, de look. Vous dites, ce qui vous frappe, c'est la jeunesse de toutes ces femmes. Ça m'a frappé de voir ça.
Les donneuses d'ovocytes sont très jeunes, effectivement, parce que il faut être extrêmement fertile. Donc elles ont toutes moins de 30 ans, généralement, moi même de 28 ans. En l'occurrence, Bruna, qui a porté notre petit garçon, avec qui on est resté en contact et qui demande des photos régulièrement. On a gardé un contact très, très, très sain et très proche. Elle avait 21 ans, en l'occurrence. Donc elle était effectivement très jeune. Mais ce que j'explique, c'est que les femmes qui portent les enfants dans une GPA éthique aux États-Unis sont choisies sur leurs revenus. C'est-à-dire que ça ne peut pas être des femmes qui sont dans le besoin, contrairement à ce qu'on peut lire en disant vous avez utilisé une femme pauvre ou ce genre de choses, ça n'est pas vrai.
Elle fait quoi dans la vie, Bruna et Whitney font quoi
alors,
dans la vie?
Bruna, elle travaille dans une salle de sport en l'occurrence, et Whitney, elle était enseignante, pardonnez-moi, elle travaillait dans un jardin d'enfants plus précisément, elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de ses 3 filles, et lui est cadre hospitalier, ils sont propriétaires de leur maison dans le Nevada, pas loin de Las Vegas, avec un grand jardin, ils ont 2 voitures.
Vous avez tout.
Je suis allé les voir. soir, surtout. Oui, j'étais chez eux, donc je les connais bien. Ouais. Ils sont devenus des amis, vraiment.
Il y a des photos, d'ailleurs. Hein,
il y a des photos, oui. Mais j'ai envie de rendre les choses humaines, de comprendre. Après, pour revenir à ce que vous disiez sur la partie financière, il y a effectivement ce qu'on appelle aux États-Unis un dédommagement par rapport à ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup de temps qu'elle va passer, beaucoup d'efforts. C'est quelque chose de pas évident, une grossesse, évidemment. Et puis, il y a également toute une partie de frais pour les gardes d'enfants. Donc, grosso modo, la mère porteuse, elle va toucher à peu près 30 000 dollars, ce qui fait 26 000 euros, ce qui est une somme, certes, mais par rapport aux 130 000 dont je vous parlais, c'est peanuts. Il faut savoir que la partie la plus importante, c'est la partie médicale. La santé, pour le coup, c'est un business aux États-Unis. Et quand vous arrivez aux États-Unis dans un hôpital, on vous demande non pas votre carte vitale ou votre carte d'identité, mais votre carte bancaire. Un accouchement, par exemple, aux États-Unis, c'est à peu près 20 000 dollars. Et c'est vrai qu'en France, on vit dans une espèce de mythe que la santé est gratuite, parce qu'on ne paye rien directement. Alors évidemment, c'est la solidarité nationale, donc on participe tous, mais on ignore totalement les vrais coûts des frais médicaux. Et c'est ça qui représente plus de la moitié.
Qu'est-ce que vous répondez sur la marchandisation du corps?
Eh bien, quand on... ça existe.
Ça existe, vous mettez en garde contre les pays de l'Est, aussi, où il y a des espèces de...
Il y a des filières dans un certain nombre de pays. Moi, j'ai entendu, j'ai enquêté sur pas mal de choses. C'est vrai qu'au début, quand je me suis renseigné sur la GPA, j'ai vu que dans un certain nombre de pays, notamment les pays de l'Est, il y avait des choses, on peut le dire concrètement, dégueulasses qui existent. Il y a des jeunes femmes qui ont 25 ans, qui ont déjà porté 5 enfants et qui font vivre toute leur famille comme ça, en réalisant des rêves de personnes, etc. Donc ça, on est d'accord que jamais on ne serait allé vers ça. J'aurais pas pu regarder mon gosse dans les yeux, j'aurais pas pu me regarder dans les yeux. Donc à un moment donné, ça n'a vraiment pas été une option possible. Mais dans le cadre de ce qu'on appelle une GPA éthique aux États-Unis, les choses sont extrêmement bordées, cadrées, que ce soit psychologiquement, les femmes sont accompagnées, c'est également cadré juridiquement, pour aussi que l'enfant puisse avoir accès à ses origines. Donc tout est fait dans le respect des personnes, de tous les acteurs finalement, parce que c'est vraiment, je parlais de Whitney, mais il y a aussi Jacob, son mari, qui est là à l'accouchement, qui l'a accompagné pendant tout le parcours. Et c'est vraiment tous les gens que je connais, moi je raconte mon histoire, je dis pas que c'est toujours mais tous les gens que je connais, en tout cas aux États-Unis, qui ont eu recours à la GPA, ils ont tous gardé un lien extrêmement fort avec leur mère porteuse. Je comprends qu'on puisse être contre.
On a deux questions d'auditeurs. Stéphane dit, est-ce que vous avez eu peur que la mère porteuse garde l'enfant? Est-ce qu'on y pense?
Alors, on ne peut pas avoir cette peur-là, parce qu'aux États-Unis, tout est bordé cadré, et cadré, et que ça n'est pas possible, en fait. Elle ne peut pas garder l'enfant, et il faut bien comprendre que dans ce projet, ces femmes-là aussi discutent avec... Il y a une sélection avec un psychologue, avec des tests psychologiques. La première femme avec qui nous avions parlé, par exemple, n'a pas passé le test psychologique. On a estimé qu'elle était trop fragile et qu'elle n'était pas prête à vivre ça. Il y a des parents d'intention aussi à qui on refuse. On leur dit, messieurs ou mesdames, messieurs, si ce sont des parents hétérosexuels, vous n'êtes pas prêt, attendez un peu, mûrissez votre projet. Donc il y a beaucoup de garde-fous, c'est ça que je veux expliquer.
C'est ce que vous voulez dire, parce qu'on a une auditrice aussi qui dit, j'ai juste une question, pourquoi en parler autant ces temps-ci? Ça reste du privé, ça se fait, on le sait.
Je sors un livre, donc c'est pour ça que je suis invité, j'en parle.
Non, mais pourquoi avoir fait ce livre pour faire approuver votre choix? Vous n'avez pas à vous justifier finalement. Donc pourquoi avoir eu envie de le raconter?
C'est une bonne question. J'ai raconté mon histoire à la base, pour tout vous dire, j'avais commencé tout au long de ce processus à écrire des choses un peu comme un journal pour me souvenir en fait et pour pouvoir raconter son histoire à mon petit garçon quand il serait un peu plus grand. Et puis il se trouve que j'ai donné une interview l'année dernière dans un magazine à Gala, un éditeur a lu ça et il a trouvé notre parcours touchant et il nous a proposé et il m'a convaincu même en me disant qu'il pensait que c'était important notamment pour les autres familles. Et c'est vrai que moi j'ai pas envie qu'on salisse entre guillemets l'histoire de mon petit garçon, donc j'avais envie qu'il y ait aussi un exemple de comment ça peut se passer, comment ça peut bien se passer, et qu'il n'y ait pas uniquement des images caricaturales qui disent ou qui sous-entendent qu'on a acheté un enfant sur Internet. Parce que vous avez lu le livre, c'est pas du tout ça. Je comprends qu'on puisse être contre la gestation notamment pour des raisons philosophiques, et je respecte totalement ce point de vue. Mais si jamais on vient m'insulter en disant que j'ai utilisé une esclave, parce que je lis ces messages-là,
vous recevez beaucoup de messages d'insultes, qui dit que
j'ai esclavagisé une femme, désolé, renseignez-vous, parlez avec ces femmes. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre où Whitney parle directement,
elle explique ce qu'elle a vécu. À ces questions.
Voilà. Et ça, c'est très important de ne pas parler à la place de ces femmes.
Christophe Beaugrand, Valérie, qu'on retrouvera dans Ninja Warrior pour l'année prochaine, l'année qui arrive en 2022. On n'est plus très loin maintenant.
Oui, j'espère qu'il viendra en studio nous en parler, peut-être avec Denis Brognard et peut-être Iris Mittenaar, si vous avez les trois.
Je vois que vous y connaissez bien,
formidable,
Ninja Warrior.
Absolument. Allez, d'autres coulisses, 40 jours sous terre, Deep Time avec Christian Clos dans un instant.